majorité du peuple est aveugle par choix. La planète tourne autour d'une seule musique. Moi, je refuse d'accorder ma voix avec leur pensée unique. Je veux rester qui je suis, je veux que tu restes quitté. If you don't understand me, on va devoir se quitter. Moi, ma langue est sous respiration subventionnée. Je le sais, c'est pas de ta faute si on aime plus qui on est. Pour que les radios jouent du francophone, faut les pousser. Notre culture est une vieille fille que personne veut épouser. Même nous on danse avec une autre dès qu'on a la chance. Combien de Québ renient leur accent en France? Combien disent c'est pas grave, faisant pas toute une montagne? Quand depuis 1759, moi j'ai perdu mon calme et j'ai volé les Hurons et autres peuples qu'eux seuls se rappellent du nom. Abenaki, Iroquois, Micmac qui crie. Ainsi l'histoire s'écrit, les canons parlent. Ceux qui en ont pas font de la place. Mais comme dirait Vigneault, tous les humains sont de ma race. Demain, je m'éteindrai face à d'autres tribus qui naissent. Je me souviendrai que nos différences sont richesses.
Québec révèle des talents musicaux qui font maintenant la signature de la scène locale partout ailleurs. Quoi de plus logique que de dédier une émission complète à la découverte de ces artistes d'ici? Écoute locale, la playlist, c'est une émission d'une heure entièrement consacrée aux sorties musicales de la vieille capitale. Tous les lundis 14h sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours mieux d'écouter local.
Tu es en manque de festivals, de spectacles en personne, de découvertes musicales? Eh bien, ouvre tes oreilles. Le Festival Off de Québec est de retour cet été avec son petit Off volume 2. Un peu comme l'été passé et suivant les consignes sanitaires, c'est une version un peu réduite du festival, mais ô combien chaleureuse et riche en découvertes musicales. 13 spectacles en personne sur 5 jours, 5 $ par spectacle, c'est capoté. Le Petit Off volume 2, co-présenté par la Fabrique culturelle et Chiz 94.3 du 7 et 11 juillet dans la cour extérieure des ateliers du réacteur au 715 rue Saint-Vallier-Est. Programmation sur québecoff.org, billets en vente sur lepointdevente.com.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'émission 3600 secondes d'histoire. Vous êtes sur les ondes de Chiz 94.3 et ce soir, nous recevons les historiens M. Joël Béliveau et M. Marcel Martel pour une émission sur leurs plus récents ouvrages intitulé « Entre solitude et réjouissance, les francophones et les fêtes nationales, 1834-1982 ». Avant toute chose, j'aimerais vous souhaiter en ce 24 juin 2021 une super fête nationale du Québec. Et ça tombe bien parce que les fêtes nationales, eh bien, c'est le sujet de l'émission de ce soir. À l'animation, vous êtes en compagnie de Émy Bois, étudiante à la maîtrise en histoire, et c'est un plaisir d'être à nouveau des vôtres. Maintenant, sans plus tarder, je vous présente nos invités de ce soir. Alors, jusqu'à tout récemment, professeur agrégé au département d'histoire de l'Université Laurentienne et chercheur associé au Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l'Université d'Ottawa, M. Joël Béliveau est spécialiste de l'histoire intellectuelle, culturelle et politique de l'Acadie, du Québec et de l'Ontario français. Il s'intéresse particulièrement aux mouvements sociaux et aux mouvances nationalitaires des minorités linguistiques au Canada contemporain. Auprès de l'Université d'Ottawa, il a fait paraître en 2014 l'ouvrage « Le moment 68 et la réinvention de l'Acadie » et il a co-dirigé l'ouvrage « La vague nationale, les années 1968, une comparaison internationale » paru en 2020. Monsieur Marcel Martel, pour sa part, est professeur d'histoire et titulaire de la chaire Avi Bennett, historica en histoire canadienne de l'Université de York. Dans le cadre de ses recherches, il s'intéresse aux politiques gouvernementales, aux minorités linguistiques, à la régulation sociale et morale, ainsi qu'à la notion d'identité, ce qui l'a amené, bien sûr, à publier plusieurs ouvrages et articles sur le sujet. Il a d'ailleurs fait paraître en 2010 aux éditions du Boréal l'ouvrage « Langue et politique au Canada et au Québec » en collaboration avec Martin Paquette et auprès de l'Université Laval en 2016 « Canada français et la Confédération, fondement et bilan critique » avec Jean-François Caron. Alors bonsoir messieurs, bienvenue aux 3600 secondes d'histoire. Bien heureuse de vous recevoir.
Bonsoir, Madame Bois.
Alors, vous avez dirigé l'ouvrage « Entre solitude et réjouissance, les francophones et les fêtes nationales » qui a été publié en mars 2021 aux éditions du Boréal, hein, que je remercie d'ailleurs chaleureusement pour l'envoi du livre en service de presse. Donc, il s'agit d'une synthèse historique qui retrace les origines et l'évolution de 6 fêtes nationales au Canada. On y parle des dates du 24 mai, du 24 juin, du 1er juillet et du 15 août, dates sur lesquelles nous aurons amplement l'occasion de revenir au cours de la prochaine heure. Votre ouvrage est divisé en 4 parties, donc relative à chacun de ces moments hein, de fête nationale. D'autres chercheurs ont collaboré aussi à l'ouvrage. On y retrouve les textes de Marc-André Gagnon, Serge Miville, Dominique Laporte et Michael Poplianski. Vous concentrez votre étude sur les Canadiens français, les Canadiens d'origine, en fait, les Canadiens d'expression, pardon, d'expression française, et vous vous posez des questions comme comment les Canadiens d'expression française ont-ils navigué entre leurs diverses allégeances par rapport aux fêtes collectives qu'on leur a proposées depuis ce siècle des nationalités. Donc, ce soir à l'émission, nous allons jeter un regard d'ensemble sur votre étude tout en explorant ensemble quelques fêtes nationales. Donc, on va y aller dès le début par quelques questions donc, d'introduction. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre l'écriture de la direction de cet ouvrage?
Ça a commencé il y a bien longtemps, je pense en 2012. Marcel, Martel et moi prenions peut-être un café, peut-être une bière, en tout cas en fin de journée d'un colloque, je pense que c'était une bière, dans un restaurant à Montréal. Et moi, ça fait un bout de temps que j'avais envie de travailler avec Marcel Martel. J'admire beaucoup la diversité des thèmes qui a touché. Et on a cherché un thème en commun. En fait, c'est comme ça que c'est parti. Et puis la question des fêtes nationales, c'est tout de suite présenté, mais au début, on visait quelque chose de plus large. Encore, le projet s'est intitulé, hein, qu'on a soumis au CRSH, le Canada français dans les imaginaires canadiens. Hein, comment est-ce que les différents segments de la population canadienne voyaient le Canada français au cours des années, au cours des siècles? Dans le fond, c'était assez gros comme projet. On a réussi à avoir le financement, merci au CRSH, et puis on s'est quand même rendu compte que c'était un peu énorme comme truc, et puis on s'est centré sur les fêtes nationales comme une sorte de manière d'avoir un instantané à plusieurs niveaux, à plusieurs moments, de l'appartenance, de l'identité. L'identité, c'est quelque chose de fluide, c'est quelque chose qui est difficile à cerner. Puis on s'est dit, mais qu'est-ce que ce serait si on regardait hein, comment chacune de ces fêtes nationales-là a été observée dans différentes régions du pays d'abord? Hein? Est-ce qu'on parlait de ces fêtes-là de manière différente? Est-ce qu'on les appropriait de manière différente? Et puis ensuite, comment est-ce que ça évolue? Hein? Pourquoi est-ce que les fêtes sont demeurées? Est-ce qu'il y a des cas de fêtes qui ne sont pas demeurées? Pourquoi? Qu'est-ce que ça prend pour qu'une fête s'adapte et survive? Et puis, ça, c'est un peu nos questions de base. Et puis, on est parti de là.
Mm-hmm. Donc, il y aurait encore beaucoup à venir si prochainement un autre ouvrage devait paraître. C'est ce que je comprends. Afin d'introduire nos auditeurs et auditrices au sujet de l'émission de ce soir, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les raisons qui poussent un peuple à célébrer la naissance de son pays ou sa nationalité?
Je vais y aller avec une tentative de réponse. J'avoue, quand avec Joël, on a abordé ce projet, je pensais bien naïvement que quand on parle de fête nationale, tout ça est organisé d'en haut. Donc, ce sont les États et puis la population va obéir et puis va participer un peu passivement. Et j'avoue que j'ai été surpris de découvrir que c'était souvent des initiatives populaires, par exemple la fête de l'Empire qui était destinée à raffermir les liens avec l'Empire. Et ça, peu importe ce que l'on pense de la validité ou pas de cette fête, il faut quand même saluer le courage de la personne. C'était une femme qui a eu l'idée et malheureusement, elle s'est fait récupérer son idée par les politiciens qui étaient bien contents là, de s'en saisir. Donc, pourquoi les gens fêtent? Les gens fêtent parce qu'ils ont l'impression de s'identifier dans ces occasions de célébrer et surtout parce qu'il y a une dimension identitaire. C'est-à-dire que des gens jugent qu'il est important de participer aux activités du 24 juin parce que pour eux et pour elles, c'est un moment de souligner non seulement auprès de leurs enfants, auprès des membres de leur famille, mais l'ensemble de la collectivité, que non seulement ils existent, mais qu'ils sont fiers de ce qu'ils sont. Et l'autre raison pour laquelle les gens vont participer aux activités, c'est, bon, ils profitent d'une journée de congé. Si certains en profitent justement pour se reposer, d'autres en profitent au contraire là, pour célébrer dignement, parfois avec des feux d'artifice, etc., leur appartenance nationale.
Donc, oui, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, M. Béliveau?
Peut-être qu'on peut saluer au passage aussi les deux ancêtres des fêtes nationales, hein, parce que ça vient quand même dans quelque part. Puis une chose que les gens sont souvent surpris d'entendre, c'est que les fêtes nationales telles qu'on les connaisse, c'est vraiment né dans la deuxième moitié du 19e siècle, donc dans les années 1800. Alors qu'avant ça, tu avais déjà deux choses. Tu avais d'abord les fêtes patronales, hein, donc les saints patrons. Et ça, c'était parfois des régions, des pays, entre guillemets, qui avaient leur saint patron, mais ça pouvait aussi être des métiers. Hein. Il y a un saint patron des boulangers ou des écoliers, par exemple. Et puis, ça, c'est un peu une des racines des fêtes nationales. Hein. Bien sûr, ça donnait la Saint-Patrice ou la Saint-Patrick pour les Irlandais, la Saint-Jean-Baptiste hein, pour les Canadiens français. Et l'autre racine, c'est le fait de fêter le monarque. Hein. Dans la plupart des monarchies, historiquement, on a toujours fêté l'anniversaire du monarque, du roi ou de la reine. Et on va voir que dans le cas du 24 mai, hein, de la fête de la reine Victoria, c'est ça la racine de cette fête-là aussi. Ça a peut-être été la première fête nationale ou proto-fête nationale du Canada dans son ensemble. Donc, petit salut à ces deux ancêtres.
Et outre célébrer sa nationalité, célébrer son identité, est-ce qu'il y a aussi une partie de se distinguer? Hein? Est-ce qu'il y a, par exemple, on pense à la fête nationale du Québec, est-ce qu'il y a justement une distinction? On a voulu créer, se différencier.
C'est-à-dire, si on retourne aux origines du 24 juin, il y a une volonté de se distinguer, mais il y a aussi une volonté de faire ce que d'autres faisaient, c'est-à-dire que le 24 juin, en 1834, c'est d'abord une fête ethnique. C'est-à-dire, c'est la fête des gens qui s'identifient au groupe canadien-français. Et on le faisait en réaction à ce que les Irlandais, parce que les Irlandais fêtaient la Saint-Patrick. Donc, l'UG Duvernay, et là, probablement, des gens vont être en désaccord avec ce que je dis, il y a une dimension ethnique très importante. Puis il y a également une dimension de copier, mais aussi d'adapter, c'est-à-dire de copier des éléments de la fête nationale des Irlandais. Quand je dis copier, c'est que les Canadiens français vont organiser une procession, comme les Irlandais le faisaient. Sauf que cette procession-là va prendre une dimension politique dans la mesure où le message qu'on envoie, c'est qu'on occupe l'espace public. La parade se déroule là, dans la rue. Et il est important de défiler de manière festive, mais tout en étant respectueux de l'ordre, parce qu'on ne voulait quand même pas qu'il y ait des débordements, parce qu'il y avait des débordements. Qu'est-ce que les autres groupes ethniques allaient penser, hein, des Irlandais allaient penser, des Canadiens français? Donc oui, il y a une volonté de se distinguer. Donc les Canadiens français veulent créer l'occasion de célébrer des éléments clés de leur identité, le catholicisme, la langue française, leur culture. Mais, c'est-à-dire, on imitait d'autres groupes qui avaient également des activités similaires. Donc j'ai mentionné les Irlandais, mais il y avait les Anglais qui avaient leur fête et les Écossais qui avaient leur fête. Donc on se distingue, mais on imite.
Et puis j'ajouterais justement, tu as tout à fait raison, Marcel, c'est ça qui est ironique avec le nationalisme de manière générale. Hein, le nationalisme est particularisant, chaque nation qui se dit particulière, différente, unique, mais il y a une vague de nationalisme. Le nationalisme lui-même devient universel à la fin du 19e siècle. Puis pour reprendre sur l'exemple de Marcel, les Acadiens, quand ils vont créer leur fête nationale 50 ans après les Canadiens français, ils vont évoquer en toutes lettres exactement ça. Ils vont dire les Anglais ont la Saint-Georges, les Canadiens français ont la Saint-Jean-Baptiste, les Irlandais ont la Saint-Patrice. On ne voit pas pourquoi nous, on n'aurait pas le nôtre aussi. Hein? Donc vraiment cette imitation-là et la distinction en même temps. Et pour revenir à votre question aussi, mais c'est vrai que la distinction est très importante de manière générale. Hein, puis les premières fêtes canadiennes-françaises autour, canadiennes-anglaises, pardon, ou britanniques, vraiment insistent beaucoup sur le caractère britannique du Canada. Hein, le 24 mai, la fête Victoria et la fête de l'Empire qui va s'y rattacher, c'est beaucoup par anti-américanisme, hein, pour se distinguer de la République vulgaire au Sud. Alors oui, c'est sûr que la distinction est importante.
Alors, restez des nôtres, chers auditeurs et auditrices. Nous écoutons maintenant notre première pièce musicale de la soirée, une chanson pour la Saint-Jean-Baptiste, donc « Jean du pays », composée par Gilles Vigneault et chantée pour la première fois le 24 juin 1975. Vous entendez d'ailleurs un enregistrement audio de cette soirée du 24 juin 1975. Bonne écoute! Vous êtes de retour aux 3600 secondes d'histoire pour une émission sur l'histoire des fêtes nationales en compagnie des historiens M. Joël Béliveau et M. Marcel Martel. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur les raisons qui poussent un peuple à célébrer sa nationalité ou la naissance de son pays, nous allons regarder ensemble quelques exemples canadiens et commençons donc avec le 24 mai, la fête de la Reine, la fête de l'Empire, la fête de Delors des Ormeaux. Hein, beaucoup de fêtes cette journée-là. Et nous dirons peut-être un mot aussi sur la Journée nationale des Patriotes. Donc, en 1845, quelques années après les rébellions patriotes dans les deux Canadas, le Parlement de la province Canada adopte un projet de loi qui déclare le 24 mai comme étant jour de fête, celui de la fête de la reine Victoria. Pourquoi les législateurs ont-ils cherché à souligner cet anniversaire-là?
Je vais y aller avec une tentative de réponse, mais je ne vais pas fournir trop d'informations parce qu'après tout, hein, on veut piquer la curiosité du lecteur. Il y avait une volonté de marquer son appartenance à l'Empire britannique. Je ne vais probablement pas surprendre personne, c'est-à-dire à la mi-19e siècle, c'est quand même l'âge des monarchies, du moins dans certaines parties du monde. Et marquer son respect à la reine passait par la création de cette fête. Et je vais reprendre un élément que Joël a mentionné précédemment, hein, cette compétition entre se distinguer et bien entendu imiter. Donc un élément de distinction, c'est que tout au long du 19e siècle, les Britanniques et les Canadiens français qui vivent dans les différentes colonies britanniques, que ce soit la colonie du Canada qui regroupait ce qui va devenir l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, on perçoit les Américains comme étant, c'est-à-dire une menace non seulement idéologique, mais une menace militaire. On vivait toujours dans la crainte que ce qui s'était passé en 1812 va se répéter, donc l'attaque américaine contre les Britanniques. Donc, en créant l'occasion, une fois par année, pour marquer non seulement sa fierté à appartenir à l'Empire britannique, mais le respect à l'égard de ce que la reine Victoria symbolise, c'était une manière de rappeler à ceux qui habitaient dans les colonies britanniques que non seulement on était différents des Américains, mais on a l'intention de le rester jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire que les États-Unis, là, il faut trouver des moyens de marquer nos différences.
Et comment se déroulaient les célébrations de la fête de Victoria dans la colonie?
C'est-à-dire, premier élément que je ne dois pas oublier, c'est les feux d'artifice. Mm-hmm. C'est-à-dire que les marchands encourageaient les individus à acheter des feux d'artifice. Donc, si on se demande pourquoi le 24 mai, peut-être c'est pas autant le cas au Québec, mais pour avoir vécu à Ottawa et là maintenant je vis à Toronto, les fameux feux d'artifice du 24 mai, eh bien c'est non seulement c'est une manière de célébrer l'anniversaire, mais au moment où les parlementaires vont débattre de la création en 1901, de la création là, de la fête Victoria comme un congé à travers l'ensemble du pays, il y avait certains parlementaires qui disaient « Écoutez, c'est une bonne chose parce que ça va favoriser non seulement les activités commerciales, mais notamment les gens d'affaires qui vendent des feux d'artifice. »
Oui, c'est une tradition qui est encore bien vivante. Imaginez, 150 ans plus tard, il y a encore des feux d'artifice le 24 mai. Les gens ne célèbrent pas la fête, mais ils font encore des feux d'artifice. Mm-hmm. C'est remarquable.
Et moi, pour avoir travaillé dans une base militaire à la Citadelle, on fait des coups de canon encore aujourd'hui, le 24 mai. Donc oui, bien vivant encore ces célébrations-là dans certains endroits. Oui.
Mais l'autre élément aussi qui nous a surpris, quand on parle du congé et la fête de la reine Victoria, je veux quand même pas là, que les gens pensent que, contrairement aujourd'hui où les gens interprètent la fête de la reine, la fête des patriotes, comme étant une journée de congé, bon, on en profite pour passer comme on l'entend cette journée. Dès la mi-19e siècle, il y a bien des gens qui jugeaient que c'était une journée dédié aux loisirs familiales ou assister à des compétitions de cross ou des compétitions, des parties de baseball. Donc, dès le début, on voit cette tension entre une volonté de célébrer en marquant son appartenance puis participer à cérémonies qui pouvaient se dérouler dans les grandes villes, les petits villages, et bien des gens qui se disent « c'est un congé ». Ce qu'on tente de faire, c'est interfère avec ma gestion de mon temps ou la gestion du temps que j'ai avec la famille. Et bien des gens préféraient aller en voyage, un voyage d'une journée, de deux jours, acheter des vêtements, décorer leur maison ou aller en pique-nique. Dieu sait, ça, c'était une activité dont on parlait abondamment, c'est-à-dire aller en pique-nique. Donc, si les gens croyaient là, que non, tout le monde était amassé devant ou réuni devant la statue de la reine Victoria qu'on pouvait retrouver dans plusieurs villes et villages là, au Canada, détrompez-vous, il y avait bien des gens qui disaient non. On reste à la maison, on se repose en famille ou on se réunit en famille. Et puis là, je vais faire appel à Joël. Il y a une expression, je ne sais pas si elle a son équivalent chez les francophones, mais chez les anglophones, quand on parle du 24 mai.
Ben oui, le 24 mai dans le nord de l'Ontario, hein, un peu partout au Canada, c'est un peu l'ouverture des chalets aussi, c'est l'ouverture des camps, c'est le début du printemps. Et puis pour certains, c'est aussi la première descente en canot, parce que c'est la crue printanière. Et puis, ils appellent cette première descente en canot-là May 24. Hein? May 24, 24 pour le 24 mai, mais c'est aussi une 24 de bière. Hein? Donc, expression populaire. Puis, si je peux rajouter sur les feux d'artifice aussi, ça aussi, ça se trouve dans l'interstice entre les célébrations officielles puis le loisir personnel. Parce qu'il arrive, c'est que les feux d'artifice dans plusieurs municipalités étaient interdites la plupart des jours par crainte de feu, d'incendie. Mais on donnait une permission à certains jours fériés, incluant le 24 mai. Donc souvent, ce ne sont pas nécessairement des grands patriotes ou des grands monarchistes qui faisaient des feux d'artifice ce jour-là. C'est juste qu'ils saisissaient l'occasion qui se présentait à eux.
Donc, toute une tension entre célébrer ou partir en vacances, puis une réutilisation commerciale de la fête de la reine. Donc, surtout, je pense au 20e siècle que ça se passe, là, cette réutilisation commerciale. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de la fête de Dollard des Ormeaux, hein, qui est un peu une contre-tradition à la fête de la reine. Donc, en 1918, un an après la conscription, les Canadiens français commencent à célébrer annuellement la fête de Dollard des Ormeaux, le jour même où on célébrait l'anniversaire de la reine Victoria et son empire. Toutefois, la fête de Dollard des Ormeaux va s'éteindre dans les années 1960, faute de réactualisation de la symbolique de la fête et par manque de résonance dans la culture populaire de l'époque. Donc, en quelques mots, pouvez-vous nous expliquer pourquoi c'est une contre-tradition, cette fête-là, à la fête de la reine?
De l'art des ormeaux, c'est une figure qui avait longtemps été oubliée d'abord, qui a été comme redécouvert par des historiens à la fin du 19e siècle, sans pour autant que ça devienne un symbole politique important. Première récupération politique, en fait, étonnamment, est au début des années 1910 par un journal anglophone, le Montreal Star, qui ont fait une sorte de défenseur de la civilisation européenne en Amérique du Nord, pas très politiquement correct de nos jours. Mais pendant la crise de la conscription, elle va être réinterprétée, notamment par Lionel Groulx et ses acolytes. Parce que jusqu'à ce moment-là, les Canadiens français participaient quand même timidement à la fête de l'Empire, qui est une sorte de fête qui a été annexée à la fête Victoria. C'était pendant un jour scolaire. On faisait de l'éducation patriotique ce jour-là. Puis les Canadiens français n'étaient pas chaud sur la fête de l'Empire, mais ils participaient quand même un peu. Ils saluaient l'initiative, etc. On peut imaginer que ça ne plaisait pas à tous et à toutes. Et donc, quand la crise de la conscription est arrivée, hein, Lionel Groulx et d'autres ont saisi l'occasion, puisque la mort de Delord des Ormeaux, qui était finalement un militaire français qui a été au mauvais endroit, au mauvais moment en 1669. Et lui et sa bande de Français et d'alliés Hurons ont été massacrés par des Haudenosaunee ou des Iroquois, ou défaits, hein, peut-être pas massacrés, mais défaits en tout cas. Ça, c'est en 1669. Il a été réinterprété comme un héros national. Hein. Il aurait défendu Ville-Marie, il aurait défendu Montréal, il serait mort pour la cause. Donc, on va le réinterpréter comme un modèle pour la jeunesse canadienne-française d'aujourd'hui. Hein. Comme Delord, on doit se sacrifier, avoir l'esprit de sacrifice, peut-être pas en mourant pour la cause, mais en faisant des sacrifices, certainement. Puis il y a tout un discours qui est mis en place très rapidement entre 1917 et 1918, qui sera repris dans les journaux canadiens-français. Au Québec, mais aussi en Ontario et beaucoup dans l'Ouest aussi. Ça résonne très fort dans l'Ouest, où on voit un peu dans Delord des Ormeaux un précurseur de la véranderie, hein, qui a apporté la civilisation canadienne-française jusqu'aux Rocheuses. Et puis, pendant 40 ans, hein, pratiquement les mêmes textes reviennent dans les journaux. Puis tout un rituel aussi. Hein, on porte la rose de Delord ce jour-là, donc on achète la rose de Delord, c'est une levée de fonds pour des organisations qui s'en occupent, notamment la CJC au Québec, mais aussi d'autres organisations jeunesse ailleurs au pays. Le seul endroit où ça ne va pas pogner, si vous permettez l'expression, c'est en Acadie. Dans les provinces maritimes, ça ne rejoint pas l'imaginaire maritime des Acadiens.
Et je vais ajouter un élément, et probablement lorsque le lecteur va lire le chapitre dédié à la fête de Delord, je m'attends à ce que le lecteur soit étonné d'apprendre la popularité de la fête de Delord en Ontario et surtout dans l'Ouest. Et ça s'explique par un des défis que toute personne qui conçoit une fête nationale est confrontée, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que cette fête soit actualisée, que son contenu rejoigne encore les gens. Et ce qu'on observe dans le cas de l'Ouest, c'est qu'on va associer le combat de Delord au combat que les francophones du Manitoba ou les francophones de Saskatchewan, d'Alberta, menaient pour avoir accès à des écoles où le français est la langue d'enseignement. Et c'était une question du respect des droits des Canadiens français. Donc, c'est vraiment fascinant d'observer là, c'est-à-dire cet enthousiasme que les francophones dans l'Ouest ont à l'égard du personnage de Delord. Bon, bien entendu, en 2021, le personnage de Delord, chien à rassurer les gens, on n'en fait pas un héros, parce que, surtout dans le contexte là, actuel de la réconciliation, c'est-à-dire se rappeler malheureusement de la politique là, d'extermination des peuples autochtones. Mais cela démontre une chose, hein, les fêtes ont toujours une dimension mythique dans la mesure où on va utiliser des faits du passé, on va les reconstruire de manière à ce qu'ils reflètent là des combats tels qu'ils étaient conçus et pensés à l'époque.
On va internationaliser des mythes histoires hein, pour se construire une identité, mais pas nécessairement la réalité factuelle.
Et chose étonnante, autre chose étonnante, c'est à quel point la fête était importante. Il y a de nombreux témoignages que vous pourrez découvrir dans le livre où on parle de la fête de Dolores des Ormeaux comme aussi importante que le 24 juin, aussi importante que la Saint-Jean, une rivale, peut-être la vraie fête nationale. Et ça, on l'a complètement oublié, incluant au Québec.
Effectivement. Et aujourd'hui... Quelques secondes pour rappeler ce fait. Donc, en 2002, le gouvernement du Québec va annoncer, hein, après la mort dans les années 60, finalement, des célébrations de la fête de Dolores des Ormeaux. En 2002, le gouvernement du Québec annonce la tenue de la Journée nationale des Patriotes, célébrée et chômée, donc le 24 mai, en même temps que la fête de la Reine. Donc, peut-être une minute, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus, mais est-ce qu'il y a une espèce de conflit sur le plan mémoriel par la coexistence de la fête de la Reine et la Journée nationale des Patriotes? Où ça ressemble un peu à ce qu'on avait finalement, ce qu'on retrouvait avec la fête de Dolores et...
Je pense que c'est ça. C'est voulu. Hein? Ça revient à la rivalité dont vous parliez au début. C'était clairement voulu dans le cas de la fête de Dolores des Ormeaux. On a retrouvé des textes où on dit « Ouais, c'est super, la fête de Dolores a effectivement supplanté la fête de l'Empire ici. Est-ce que c'est le cas chez vous aussi? Mm-hmm. » Mais dans le cas de la fête des Patriotes, je dirais qu'on est en train de constater un fait accompli. Hein. Je pense que de toute façon, les Québécois ne célébraient pas la fête de la Reine. Donc oui, c'est encore une rivalité, mais c'est aussi donner un sens à ce jour-là, qui était un jour chômé sans plus.
Alors, c'est maintenant le temps d'une petite pause publicitaire. Restez des nôtres, on vous revient dans 2 minutes.
Vous écoutez CHIZ 94.3 FM à Québec.
L'équipe de CHIZ reprend la route des festivals cet été. Premier arrêt, le Festival de la chanson de Tadoussac. Retrouvez-nous aux abords du restaurant Le Bateau les 26 et 27 juin dès 11h pour le retour de notre croisière musicale annuelle. Manque pas le bateau 2.0, c'est sur les ondes de CHIZ 94.3.
Du lundi au vendredi, 16h à 17h30, on se retrouve sur les ondes de CHIZ pour parler d'art et de culture. Avec des entrevues exclusives, des chroniques originales et des reportages sur le terrain, je m'engage à vous partager le meilleur de la culture émergente québécoise. Chérie, j'arrive tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de CHIZ 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute CHIZ 94.3.
Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire pour une émission sur les francophones et les fêtes nationales au Canada en compagnie des historiens M. Joël Béliveau et M. Marcel Martel. Avant la pause, nous nous sommes intéressés au 24 mai, hein, jour de plusieurs fêtes comme on l'a vu. Maintenant, attardons-nous au 24 juin et au 1er juillet. Nous sommes aujourd'hui, vous le savez, le 24 juin 2021. On célèbre la Saint-Jean-Baptiste, devenue fête nationale du Québec en 1977. Vous commencez, messieurs, la partie 2, en fait, de votre ouvrage, soit la partie dédiée au 24 juin, comme suit. Contrairement aux fêtes de la Reine Victoria et de la Confédération, la fête de la Saint-Jean-Baptiste n'est pas d'abord une fête légale. Donc, qu'est-ce qu'on entend par fête légale?
C'est-à-dire, c'est un congé qui est décrété par l'État. Je suis bien content que vous posiez la question parce que ce qui va se produire dans le cas du 24 juin, c'est-à-dire que jusqu'en 1925, au Québec, le 24 juin, ce n'est pas un congé. C'est-à-dire que lorsqu'on organise des festivités, les gens vont prendre, c'est-à-dire vont s'absenter là, du travail. À compter de 1925, seulement au Québec, le 24 juin devient un congé. Par contre, ce n'est pas un congé payé, c'est-à-dire que l'employeur n'a pas une obligation là, de compenser financièrement leurs employés. Et ce n'est qu'en 1977 que le 24 juin, encore une fois au Québec, et je vais vous dire pourquoi j'insiste toujours sur le Québec, parce que le 24 juin, c'est célébré en Ontario, en français, c'est célébré dans l'Ouest, encore aujourd'hui, en 2021, Alors qu'au Québec, depuis 1977, en plus d'être un congé décrété par l'État, c'est également un congé payé, c'est-à-dire que l'employeur ne peut pas là refuser de vous verser là une partie de votre salaire en prétextant que bien vous n'avez pas travaillé, vous n'étiez pas au travail, c'est malgré le fait que c'est un congé. Voilà.
Et donc, on a parlé un tout petit peu en introduction un peu de la Saint-Jean-Baptiste et de ses origines, mais peut-être qu'il y a d'autres choses à dire. Donc, quelles sont les origines de la Saint-Jean et comment était-elle célébrée au Canada français au 19e siècle et lors des deux premières décennies du 20e siècle?
Je vais y aller avec les origines. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est Luigi Duvernay. En 1834, il décide là d'inviter je crois que c'est une centaine de personnes dans le cadre d'un repas, d'un banquet, et ça devient l'occasion là d'expliquer aux gens pourquoi les Canadiens français devraient avoir une fête nationale. Bien entendu, l'Église catholique va y adhérer, et l'Église catholique va non seulement en profiter pour encourager les gens à participer aux célébrations, mais il va y avoir une dimension religieuse très importante. Donc, pour vous donner une idée des activités, ce qui contraste beaucoup avec la manière dont on célèbre en 2021, il y a une procession, et cette procession qui a une dimension religieuse, procession à laquelle va participer un jeune, parfois même des jeunes qui vont personnifier le Saint-Jean-Baptiste. Donc, il peut y avoir plus qu'un petit Saint-Jean-Baptiste dans le défilé. Parfois, il y en a deux ou trois. Le défilé a lieu avant ou après la célébration religieuse. Habituellement, ça se déroule le matin. Et ensuite, l'après-midi, vous avez des activités pique-niques, discours patriotiques, ce qu'on appellerait aujourd'hui discours nationaliste. Et il pourrait y avoir feu d'artifice, mais c'était davantage là un feu de joie qui venait clôturer les activités de la Saint-Jean-Baptiste.
Des immenses feux. En tout cas, dans mon petit village, on fait encore un immense feu pour la Saint-Jean avec des immenses morceaux de bois. Et est-ce que donc cette fête va être commercialisée un peu de la même façon qu'on a vu la fête Victoria? Comment évoluent les célébrations de la Saint-Jean au 20e siècle?
Je dirais qu'il y a trois éléments qui vont démarquer le 20e siècle par rapport au 19e siècle. Donc, premier élément, c'est que la Saint-Jean-Baptiste, qui était déjà célébrée dans les grandes villes au Québec, c'est-à-dire surtout à Québec et à Montréal, eh bien, ce à quoi on assiste tout au long du 20e siècle, c'est que dans les villes de taille moyenne, dans les villages, eh bien, on va fêter le 24 juin. Non pas que je veux lancer là, des flèches aux gens qui habitent Chicoutimi puis Joliette, mais voilà deux villes qui, c'est-à-dire de la mi-19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, ne fêtaient pas la Saint-Jean-Baptiste. Les journaux locaux vont tenter là, de fouetter la fierté nationale en disant honte à nous, hein, on n'organise pas de festivités à Chicoutimi, ou honte à nous, Jean de Joliette, on n'organise pas de festivités, mais malgré ces tentatives de fouetter l'ardeur nationaliste, eh bien, ça n'a pas d'effet. Alors qu'au 20e siècle, eh bien là, le mouvement de la fête nationale se répand. L'autre élément important, c'est bien entendu le fait qu'à compter 1925, le 24 juin devient un congé, ce que pourrait expliquer pourquoi que dans plusieurs petits villages, villes de taille moyenne, eh bien là, on va se lancer dans la préparation des activités du 24 juin. Et finalement, le fameux défilé qui, au début c'est-à-dire au 19e siècle, se déroulait surtout c'est-à-dire en matinée, eh bien là, ça va se dérouler en après-midi et ça va être le fameux défilé à Montréal qui va devenir là, le moment par excellence, l'activité par excellence dont les journaux vont parler. Et c'est un défilé hein, qui attirait 400 000 personnes, à l'exception des années 60 où il va y avoir là certains incidents. Jusqu'au début des années 60, ce défi-là se déroule sans aucun incident. Dernier élément que je veux mentionner, la fête du Canada français, c'est une fête qui est vraiment qui est célébrée partout. Elle est célébrée en Ontario français, elle est célébrée dans l'Ouest, puis elle est célébrée également dans les États de la Nouvelle-Angleterre. Le seul endroit où on ne la célèbre pas, et je vais inviter Joël, là, s'il veut nous expliquer pourquoi, c'est chez nos amis acadiens. C'est-à-dire au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, on ne célèbre pas le 24 juin.
Je pourrais en parler un peu plus tout à l'heure quand on parle du 15 août, peut-être. Mais sinon, juste excellente intervention, Marcel. Ça nous replonge bien dans le sujet. Juste envie de rappeler que le feu de la Saint-Jean, justement, le feu de joie, c'est une tradition très ancienne. Hein. La Saint-Jean-Baptiste était traité par les catholiques de manière générale autrefois et en France. Et le feu de joie donc, était un symbole avant même d'être un symbole de la nation. Hein. C'était le solstice d'été aussi, ou proche. Et puis, donc, on le marquait comme ça. Et sinon, sur la dimension religieuse hein, de la fête, c'était une fête patronale, donc nationale, entre guillemets, mais c'était aussi une fête religieuse. C'était les deux en même temps. Le national prédominait, mais ça ressemblait à la fête Dieu. Hein, de l'époque, était très fêtée à l'époque, à laquelle il y avait une procession aussi. Sauf que dans la fête Dieu, les éléments religieux étaient plus centraux, alors que dans la fête de la Saint-Jean, il était un petit peu plus accessoire, mais ça se ressemblait beaucoup, c'était fluide entre les deux. Il n'y a pas de rupture marquée entre fête patronale et fête religieuse à l'époque, c'était une et l'autre à la fois.
Et on voyait tantôt un peu que le 24 mai était dans certains cas, là, pour certains, plus important en termes de fêtes, de célébrations que le 24 juin. À quel moment ça devient un peu le contraire, en tout cas au Québec?
Oh, c'est une bonne question, puis c'est difficile à départager exactement. Je peux vous dire que jusqu'aux années 1930, facilement 1940, on lisait des extraits de politiciens qui donnaient des discours, parce que les politiciens aussi étaient mobilisés, allaient parler au Parc La Fontaine à Montréal, etc., et affirmaient que c'était peut-être la plus belle ou la plus importante ou la plus grande de nos fêtes. Jusqu'à quel point c'était partagé par la population, c'est difficile à jauger. Mais je vous dirais que jusqu'aux années 40, on l'entendait. Okay. Que c'était une fête nationale au même titre que la Saint-Jean.
Intéressant. Et donc, en 1977, sous le gouvernement de René Lévesque, la Saint-Jean-Baptiste va devenir la fête nationale du Québec. Qu'est-ce que ça change sur le plan symbolique et mémoriel de faire d'une fête nationale, de faire d'une fête comme ça une fête nationale?
C'est-à-dire que c'est un changement important. Auparavant, j'avais rappelé la dimension ethnique de la fête des Canadiens-Français. Eh bien, en 1977, l'État québécois lance un message très important. C'est de dire que c'est la fête nationale des Québécois, nonobstant leurs origines ethniques. Donc, c'est quand même là, un changement symbolique très important, parce que c'est vraiment une volonté de dire que c'est la fête pour tous les Québécois, peu importe d'où ils viennent, peu importe le nombre d'années qu'ils ont séjourné au Québec. Donc, c'est un changement qui reflète ce qui se produisait au Québec, hein, la Révolution tranquille, les changements apportés à l'identité nationale. Donc, il ne faut pas minimiser l'importance de ce qui se produit en 1977, ce changement de nom.
Et c'est à partir, j'imagine, de pas mal les mêmes moments où le gouvernement du Québec va prendre en main les célébrations?
Oui, effectivement. S'il y a un élément qui va probablement surprendre le lecteur en lisant le livre, c'est de voir que souvent ces festivités, que ce soit le 24 juin, le 24 mai, lorsqu'on veut organiser des activités, eh bien, c'est soit le conseil municipal qui va le faire, mais c'est souvent des organismes comme la Société Saint-Jean-Baptiste et des équivalents, que ce soit en Ontario ou dans l'Ouest. Avec l'arrivée du Parti québécois, l'élection du Parti québécois en 1976, eh bien, l'État du Québec va jouer un rôle important dans l'organisation. Et l'État du Québec va également aider financièrement à la tenue d'activités dans la plupart dans des grandes villes, villes moyennes, petits villages, pour faire en sorte là, que c'est vraiment là, le 24 juin, c'est plus qu'une journée de congé là, où les gens restent à la maison ou passent du temps en famille ou vont pique-niquer. C'est également un moment, là, prenons ce jour consacré à la fête nationale pour marquer son appartenance.
Et j'ajouterais aussi, justement, ça reflète l'évolution de l'identité québécoise à l'époque, hein, qui adopte un nationalisme plus civique. Et donc, ça devient une fête plus inclusive à plusieurs égards, comme Marcel le disait. Mais ça a aussi des répercussions. Ça exclut aussi certains groupes par inadvertance. Hein, c'est les Canadiens français, en dehors du Québec, eux vont se sentir orphelins à ce moment-là. Ça fait partie de ce que Marcel et d'autres ont appelé la rupture du Canada français. Et il y aura beaucoup d'amertume, d'une part, surtout chez les Franco-Ontariens, qui sont quand même nombreux. Et il y aura aussi, ils vont être aussi un peu désemparés hein, pour une dizaine, quinzaine d'années en Ontario. Puis Serge Miville a écrit un excellent chapitre là-dessus. On a aussi un chapitre sur l'Ouest canadien. On va se demander, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que c'est encore notre fête? Est-ce qu'on a encore le droit de célébrer la Saint-Jean? Est-ce qu'on peut encore l'appeler la Saint-Jean? Maintenant que c'est la fête nationale du Québec. Pendant 15 ans, on ne sait plus trop quoi faire. Jusqu'à ce que, finalement, il y a un ressac, puis on se dit, bon, les Québécois feront ce qu'ils voudront avec. Ils vont l'appeler fête nationale s'ils veulent, mais nous, on va continuer de fêter la bonne vieille Saint-Jean. Tout en essayant de la moderniser aussi à leur manière.
Et maintenant, passons un petit peu au 1er juillet, quelques minutes. Donc, en 1879, le gouvernement fédéral va faire du 1er juillet un jour férié, le Dominion Day en anglais ou la fête de la Confédération en français. Or, mis à part en 1917 et en 1927, le gouvernement fédéral va s'occuper peu des festivités et ce jusque dans les années 50. En effet, vous notez dans votre ouvrage, l'organisation des festivités, donc on l'a vu un peu comme les autres fêtes, était d'initiative individuelle, communautaire et municipale. Qu'est-ce qui amène la prise en main de la fête de la Confédération par le gouvernement fédéral de manière active et constante à partir des années 50?
C'est l'arrivée des progressistes conservateurs dirigés par John Diefenbaker. John Diefenbaker, élu en 1957, dirige un gouvernement minoritaire et par la suite, un an plus tard, nouvelles élections et cette fois-là, il a un gouvernement majoritaire. Diefenbaker était quelqu'un qui était choqué de constater que la célébration des liens avec la Grande-Bretagne, ou plutôt la Grande-Bretagne comme un référent identitaire dans l'identité canadienne, c'était un référent qui s'atténuait. Et lui disait, écoutez, il faut mettre un terme à ça, il faut rappeler nos origines britanniques, et le temps est venu pour l'État fédéral, l'État canadien, d'investir des ressources dans l'organisation de festivités. Pour lui, le 1er juillet, ça signifiait organiser des activités sur la colline parlementaire et il faut faire en sorte que les Canadiens se rappellent de l'aspect solennel. Hein. Le Canada naît le 1er juillet et il faut rappeler les origines britanniques. Et lorsque les gens vont lire le chapitre, ils vont probablement être surpris par une volonté de militarisation. C'est-à-dire que Diefenbaker disait qu'il est important également de profiter du 1er juillet là, pour associer l'armée canadienne. Donc, les deux ou trois premières années des festivités organisées sur la colline parlementaire, il va y avoir un volet militaire. Lorsque les libéraux, dirigés par Pearson, vont prendre le pouvoir en 1963, eh bien, ce volet militaire va s'atténuer et là, on va se mettre à valoriser d'autres éléments clés de l'identité canadienne. L'élément bilingue, c'est-à-dire que le Canada est formé de deux communautés linguistiques, mais un Canada bilingue qui fait une place aux Acadiens, qui fait une place aux francophones de l'Ouest, aux franco-ontariens. Donc, le fameux spectacle qui se déroule là, sur la colline parlementaire, où on a des chanteurs acadiens, des chanteuses acadiennes, on va avoir aussi des groupes, parfois ça va être des chorales qui nous viennent de Saint-Boniface. Autre élément, c'est la dimension autochtone. rappeler, mais pas autant qu'aujourd'hui, hein. Il y avait davantage une dimension folklorique. Rappeler la présence des Autochtones et bien entendu la dimension multiculturelle. Rappeler que le Canada, c'est plus que les francophones et les anglophones, ce sont les Ukrainiens. Et il va y avoir souvent lors des spectacles, des groupes folkloriques ukrainiens, des gens qui vont revêtir le costume ukrainien, qui vont revêtir le costume polonais, qui vont faire un numéro de danse pendant 5 minutes ou 6 minutes. Voilà.
En 1969, que la fête de la Confédération va changer de nom pour Fête du Canada. Donc, qu'est-ce que ça change, ce changement de nom, finalement?
Le changement n'est pas en 69, c'est-à-dire le changement... Non, pardon. C'est officiellement... Il n'y a pas de problème. C'est en 1982. Par contre, depuis l'année 1969, on en parle.
Ah, pardon.
Et c'est le premier ministre... Non, c'est le premier ministre Trudeau qui jugeait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va, à force d'en parler, ça va... C'est-à-dire que ça va s'inscrire dans les mœurs. Et de plus en plus, les gens vont, au lieu d'utiliser l'expression « fête de la Confédération »,« Dominion Day », ils vont utiliser la fête du Canada. Mais malheureusement, il y a du ressac, non pas au Québec, c'est surtout à l'extérieur, où bien des gens disaient « écoutez, c'est un nom, c'est la fête du Dominion, c'est une référence au 1er juillet, et ce n'est qu'en 1982, c'est ça, que la fête du 1er juillet devient la fête du Canada ». Et je crois que c'est symptomatique du fait que depuis les années 50, il y avait un lent mouvement de transformation de l'identité canadienne. Donc, on parle de la création de la citoyenneté canadienne, c'est en 1948, j'espère que je ne me trompe pas. Le drapeau canadien, c'est en 1965. Et là, la fête du Canada, on voulait changer son nom, là, surtout après le fameux centenaire de la Confédération. On se disait franchement, centenaire de la Confédération, ce serait quand même plus alléchant de dire centenaire du Canada. Donc, tout ça s'inscrivait dans une stratégie de changement dans le temps. Mais les gens qui vont lire le chapitre vont être surpris. Puis si je peux ajouter un élément, on voulait également changer la date. C'est-à-dire qu'on voulait faire en sorte que la date du 1er juillet, on voulait faire ce qu'on avait fait avec la fête du 24 mai. Comme on le sait, là, depuis 1952, on ne célèbre plus la fête de la Reine le 24 mai. C'est-à-dire c'est toujours là, le troisième lundi du mois de mai. Donc, on voulait faire la même chose avec le 1er juillet en se disant que ça devrait être le lundi qui, et là j'espère que je ne me trompe pas, qui suit le 1er juillet. Donc, le premier lundi qui va être le plus proche du 1er juillet. Et le raisonnement étant, et là c'était un raisonnement économique, les gens d'affaires qui disaient, écoutez, avoir un congé en plein milieu de semaine, là, c'est pas bon pour les affaires. Si on avait une longue fin de semaine. Donc, les gens savent que la fête du Canada va toujours être célébrée le premier lundi du mois de juillet. Bien, les gens vont avoir 3 jours. Ça veut dire 3 jours pour voyager s'ils veulent voyager, 3 jours pour faire ce qu'ils veulent, etc. Et il y a eu de fortes positions parce que bien des gens disaient, écoutez, et là, on utilisait l'analogie fête personnelle, fête collective. Est-ce que bien des gens changent leur fête personnelle en disant, écoutez, je suis né, le 4 août, est-ce qu'on devrait faire en sorte qu'on célèbre toujours mon anniversaire le 4 août, le premier lundi du mois d'août, pour accommoder mes amis? Donc, écoutez, lisez le chapitre, vous allez apprendre des aspects. Certains vont dire croustillant, mais je pense que ces aspects-là révèlent la dimension identitaire qui fait partie des célébrations nationales.
Alors, dernière fête dont il est question dans votre ouvrage, le 15 août, l'Assomption ou fête nationale des Acadiens. Donc, j'aimerais savoir, qu'est-ce que symbolise cette fête, l'Assomption, pour les Acadiens?
L'Assomption, en gros, Il y a un phénomène qu'on a appelé la Renaissance acadienne. C'est un nom un peu pompeux, peut-être, mais qui est très connu en Acadie, même chez les non-historiens. À partir des années 1860, ce peuple-là commence à se relever après un siècle après la déportation, à peu près. On voit les premiers notables être formés, on voit les premiers collèges, les premiers journaux, et tout un processus pour de définition. Donc, on a un journal, mais pour dire quoi? Pour se dire comment est-ce qu'on se définit, nous, Acadiens. Et puis, en fait, la Société Saint-Jean-Baptiste va jouer un rôle parce qu'en 1880, elle va tenir un congrès à Québec où une délégation d'Acadiens va se rendre. Et ça va les inspirer à faire la même chose l'année suivante. Et en fait, la délégation va s'engager à faire adopter la Saint-Jean-Baptiste en Acadie aussi. Sauf qu'ils organisent une convention nationale qui va l'appeler à Memramcook, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, en 1881. Et le choix d'une fête nationale est à l'ordre du jour. Ça a bien été diffusé d'avance. 5000 délégués viennent de partout dans les provinces maritimes. C'est quand même impressionnant. Seule une minorité d'hommes plus instruits vont pouvoir participer aux délibérations, bien entendu, hein, comme il se doit. Mais là, surprise, en fait, il y a un débat. On n'est pas tous d'accord avec l'idée des délégués. Et puis, tu as notamment le fougueux prêtre nationaliste Marcel-François Richard, qui arrive de Saint-Louis au Nouveau-Brunswick, avec son idée d'avoir une fête nationale propre aux Acadiens. Et puis, il y a tout un débat qui s'ensuit sur les mérites, les vertus de Saint-Jean-Baptiste versus, donc, l'idée qu'il propose, c'est la Vierge Marie. Vierge Marie qui sera préférée à une sainte qui est déjà bien appréciée des Acadiens, qui est Sainte Anne, donc la mère de Marie. Mais on reproche à Sainte Anne d'être déjà célébrée par les autochtones. Donc, est-ce qu'on veut vraiment partager une sainte avec les autochtones? À l'époque, on trouve que c'est de mauvais goût. Donc, ça, c'est le petit peuple qui célèbre Sainte Anne, mais on va imposer la Vierge Marie. Donc, on veut se distinguer, encore une fois, pour revenir à votre question du début, à la fois des Canadiens français et des autochtones, des Mi'kmaq de la région. Le débat va être très fort, mais en fin de compte, c'est l'argument de, justement, les Anglais ont la leur, les Irlandais ont la leur, les Canadiens français ont la leur. Est-ce qu'on va vraiment laisser notre histoire unique être rassemblée avec celle des Canadiens français, qui sont cousins, certes, mais en fait, il n'y a pas eu de lien entre ces deux colonies-là, même à l'époque coloniale, ou très peu. Ouais. Alors voilà.
Et comment sont les célébrations du 15 août?
Elles vont évoluer énormément. J'ai beau être spécialiste de l'histoire de l'Acadie, j'ai été vraiment surpris par toutes les tournures que ça a pris. Donc au début, c'est vraiment une fête patriotique. Les conventions nationales vont vraiment les lancer. On va encourager les villages à l'adopter. Année après année, on rapporte dans les journaux, « Oui, cette année, la fête a été célébrée dans 3 nouvelles paroisses, toujours de plus en plus loin. » Ce sont des fêtes foraines au début, avec des discours patriotiques. Et bien sûr, il y a toujours la messe, parce qu'elle aussi, comme la Saint-Jean-Baptiste au début, est à la fois une fête religieuse et nationale. Puis au début, un fait intéressant, puisque les Acadiens sont minoritaires, on va toujours inviter les notables anglophones pour dire « oui, on se rassemble, oui, on rassemble nos forces, oui, on veut devenir plus moderne, prendre notre place, mais non, on n'est pas une menace. Hein, c'est « venez voir, on célèbre notre différence, mais de manière paisible. » Mais plus la fête va avancer au début des années du 20e siècle, ça va devenir une fête plus religieuse, plus communautaire. On n'invite plus autant les anglophones. C'est plus dans le champ que ça se passe derrière l'église avant de prendre finalement un tournant touristique et peut-être mercantile dans les années 1960. On commence à vendre l'identité acadienne, la différence acadienne aux touristes américains, ontariens, québécois. Ça se passe dans le Festival acadien de la Nouvelle-Écosse dans la région de Clare. Ça se passe au Festival du Homard à Shediac. Ça se passe au Festival acadien de Caraquet. Toutes des traditions qui vont être mises sur pied à ce moment-là. Et finalement, ça va prendre une teinte plus nationaliste dans les années 1970, à l'époque du néo-nationalisme, où on va essayer de revendiquer un pays aussi, un peu à l'image du Parti québécois au Québec. Et on pourrait peut-être ajouter une dernière étape, tout dernièrement, ça devient à nouveau une fête peut-être plus multiculturelle, où on encourage chacun à venir célébrer son héritage francophone, qu'il soit francophone ou non. Ça, c'est encore un peu flou, là, l'évolution récente de la fête. Mais bref, le discours a vraiment changé beaucoup pendant 150 ans.
Alors, ça a passé vite, messieurs. Déjà 52 minutes en ondes. C'est déjà tout le temps qu'on avait pour ce soir. Merci infiniment à nos invités, M. Joël Béliveau et M. Marcel Martel. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir de vous recevoir à l'émission. Merci beaucoup. Et vous, chers auditeurs et auditrices, si vous souhaitez partager ou réécouter l'émission de ce soir, elle sera disponible dans quelques minutes sur le site de Chiz et dès demain sur toutes nos plateformes en balado-diffusion, Spotify, Google Podcast, etc. Pour terminer, quittons-nous sur une dernière pièce musicale, Ave Marie Stella, l'hymne national acadienne qu'on peut entendre le 15 août, le jour de l'Assomption. Bonne écoute, c'était Amy Bois à l'animation et c'est toujours un plaisir pour moi de vous accompagner dans ces capsules historiques. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Ave Marie Stella, Ave Marie Stella.
Show.
Le show de rap avec le meilleur flow.
À Chiz 94.3, le lundi à 20h30.
Lundi 20h30!
Avec votre animateur, Nicolas Leclerc. Pour du bon hip-hop québécois, t'as pas le choix.
T'as pas le choix!
C'est le Beatnik Show!
Merci, c'est le Beatnik Show!
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.